OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On est rendu au livre d'Amos. On est dans la deuxième partie. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va examiner deux autres aspects du livre d'Amos. On va regarder son contenu et les leçons morales qu'il contient. On va commencer par le contenu. Alors, si on regarde les versets, à partir du verset 3 du chapitre 1 jusqu'au verset 16 du chapitre 2, on a les prophéties contre les nations. Un même refrain vient tout au long de cette section, dans laquelle le prophète menace de destruction, de défaite ou d'exil, une nation après l'autre. Chaque sentence commence par la même expression. À cause de trois crimes, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. C'est une façon imagée de dire que Dieu n'agit pas de façon impulsive ni hâtive quand il juge, mais qu'il laisse à chaque nation le temps de se repentir. Après ces paroles d'introduction, Dieu indique les péchés dont chaque nation s'est rendue coupable et précise le jugement qui la frappera. Chaque nation étrangère sera châtiée pour les crimes spécifiques commis à l'échelle internationale. Toutes sont coupables de crimes de guerre et l'Éternel les punit en conséquence. Les six nations voisines d'Israël et de Juda occupent le territoire donné par Dieu à Israël. Amos commence par la Syrie, Damas, au nord-est, puis énumère les ennemis d'Israël. La Philistie avec Gaza, la Phénicie avec Tyr, Édom, Ammon et Moab. Contrairement aux trois dernières, les trois premières n'ont aucun lien de sang avec Israël. Dieu punit la Syrie pour sa cruauté sauvage, la Philistie pour sa traite des esclaves, la Phénicie pour son commerce des esclaves et sa rupture d'un traité, Édom pour s'être vengé sans faire preuve de compassion, Ammon pour son sadisme et son agression furieuse, et Moab pour sa haine violente et vindicative. Après avoir entouré Israël dans une spirale de plus en plus serrée, le prophète arrive finalement sur le seuil du peuple élu et prononce un jugement contre Juda pour son idolâtrie et son mépris des commandements de Dieu. C'est le seul peuple dont les péchés ont un rapport direct avec sa relation au Dieu vivant. L'ordre dans la succession des oracles est calculé et subversif. Les oracles qui associent dans un cercle tous les peuples ennemis se révèlent être un piège pour le peuple d'Israël qui ne se doute de rien. Quelle méthode pour capter l'attention des Israélites, ses auditeurs. On imagine facilement avec quel plaisir ils prenaient connaissance du vif mécontentement de Dieu à l'égard des nations païennes environnantes. Mais l'Éternel avait aussi un mot à dire à Israël. Avec une ardeur cinglante, Amos délivre la première série de ses jugements virulents. Le comportement d'Israël est honteux. Ses pratiques sont corrompues. Les pots de vin faussent sa justice. On réduit les pauvres en esclavage pour le paiement des dettes contractées au service de maîtres cupides. Les gens sont tellement cupides et avides d'accroître la surface de leur terre qu'ils voleraient même la poussière sur la tête du pauvre qui s'est couvert du sac et de la cendre pour gémir sur son sort. Ils pratiquent la prostitution sacrée, ils transgressent la loi de Dieu et causent des souffrances inutiles. Alors, l'abus d'alcool se constate même chez les femmes. On voit que le jugement de Dieu est logique quand il juge les nations en fonction de leurs œuvres, mais il frappe plus durement Israël car c'est son peuple infidèle. Les Israélites se sont détournés de lui pour pratiquer une religion qui mélange un culte corrompu rendu à Yahweh avec des pratiques païennes des nations voisines. La deuxième section du livre va du verset 1 du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, verset 14. Et maintenant, c'est les jugements. On avait commencé par les jugements contre les nations, maintenant c'est les jugements contre Israël lui-même. Le message s'adresse particulièrement au royaume du Nord, mais le prophète ne passe pas sous silence ses liens avec le royaume de Juda. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter d'Égypte. Le royaume de Juda au sud et celui d'Israël au nord forment ensemble toute la famille. Les quatre chapitres de 3 à 6 se divisent en trois discours ou sermons, chacun commençant par « Écoutez cette parole ». Dans son premier sermon, le prophète précise la nature et la raison de la contestation qui oppose l'Éternel à Israël. Dans le deuxième, chapitre 4, verset 1 à 13, il souligne que le peuple ne s'est pas tourné vers Dieu dans la repentance et la foi, malgré les châtiments passés à cause de sa méchanceté et de son impiété. Amos se lamente sur la condition du peuple et s'attriste de la nécessité des nouvelles sanctions contre lui. Les premiers mots du deuxième discours illustrent le langage terre-à-terre et le style d'Amos. Écoutez cette parole, génisse de Bazan. Bazan était une région agricole connue pour la vigueur et la taille de son bétail. Amos compare les femmes riches d'Israël aux génisses de Bazan. À l'époque, personne ne considérait ce langage excessif ou impoli. Les femmes visées sont grasses, comme des génisses, parce qu'elles se gavent plus que de raison. Elles se donnent du bon temps et s'enivrent. Elles s'accrochent cupidement à ce qu'elles possèdent et dépouillent de plus en plus les pauvres et les malheureux. Le troisième sermon, qui va du chapitre 5, verset 1, aller jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 6, verset 14, se scinde en deux parties, séparées par le cri perçant. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Il résume l'accusation que l'Éternel porte contre Israël. Le peuple est égoïste, cupide, injuste et se complaît en lui-même. Il pratique une religion déformée qui combine des éléments de cérémonie païenne avec une forme corrompue du culte rendu à Dieu. Malgré cela, le troisième discours contient un tendre appel à la repentance. Au plus fort des jugements sévères, l'Éternel presse Israël à revenir à lui. À la page 4, ceux qui ont les notes, vous allez voir que si vous étudiez la page, vous allez voir, c'est comme une... Vous voyez qui entourait Israël, et c'est pratique si vous voulez étudier et comprendre un petit peu que ce qu'il dit par rapport aux nations qui environnaient. Alors, ça dit « Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi, l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. » Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. Alors, à partir du chapitre 7, verset 1, jusqu'au chapitre 9, verset 10, on a cinq visions de jugement. La troisième section contient cinq visions de jugement. Les quatre premières présentent des points communs et se distinguent nettement de la cinquième. L'Éternel montre à Amos des objets ou des événements. Dans la cinquième, Amos voit Dieu lui-même debout près de l'autel. Les deux premières visions, les sauterelles et le feu, peut-être l'image d'une terrible sécheresse, dévastent la végétation et toute la chaîne de survie du peuple. Le feu consomme ce que les sauterelles ne dévorent pas. Le prophète intercède devant Dieu en faveur de la nation et les deux désastres ne se produisent pas. Contrairement aux deux premières visions, la troisième requiert une explication, car son application ne tombe pas immédiatement sous le sens. Amos aperçoit un cordeau. Dieu lui dit que ceci représente les exigences divines. L'Éternel s'apprête à juger la nation selon ses critères. Les édifices qui ne sont pas d'aplomb sont dangereux et doivent être démolis. Israël sera laissé désert parce qu'il ne satisfait pas aux conditions de Dieu. Dans le chapitre 7, versets 10 à 17, on a ce qu'il appelle un interlude historique. Un interlude historique vient entrecouper l'exposé des cinq visions. Amatsia, le prêtre idolâtre de Bethel, réagit violemment aux prophéties d'Amos. Devant le roi Jéroboam II, il accuse le prophète de conspiration. Amatsia s'adresse à Amos en ces termes directs. « Oh ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. » Amos se défend de l'accusation portée contre lui en indiquant ses origines. « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » En faisant connaître ses origines de berger dans les champs de Tekoa, Amos cherche à faire comprendre qu'il n'a aucun lien politique avec le gouvernement de Juda. Après cet aparté historique, le prophète reprend le fil de son récit des visions. La quatrième est étroitement liée à la précédente. Là encore, la vision d'une corbeille de fruits nécessite une explication et une application. Le Seigneur déclare qu'Israël est mûr pour le jugement. C'est comme s'il disait que les vices du peuple avaient mûri et que la vengeance ne pouvait plus être reportée à plus tard. Chapitre 9, versets 1 à 10, on parle de la cinquième vision, le Seigneur sur l'autel. La cinquième et dernière vision se distingue des précédentes. Il n'y a ni objet, ni événement, mais le Seigneur se tient debout sur l'autel. Il n'y a aucun dialogue entre Dieu et le prophète, et aucune action n'est entreprise. Amos écoute simplement en silence les paroles de l'Éternel. Sur l'autel, le Seigneur donne des instructions pour que le temple soit détruit de manière à ce que la nation tout entière soit enfouie sous les décombres. Si quelqu'un parvient à s'échapper, Dieu lui-même le poursuivra et le tuera, car le Seigneur, l'Éternel des armées, est roi et juge de toute la terre. Israël est devenu comme les nations païennes et ne mérite pas d'être épargné. Pourtant, malgré le péché et la méchanceté d'Israël, Dieu ne le détruira pas entièrement. Le jugement sévère est inévitable, mais tout n'est pas perdu. Bien qu'ayant été provoqué constamment de manière démesurée, le Seigneur restaurera et bénira la nation. En ces temps de vie facile et d'abondance, les Israélites qui pouvaient compter sur une réelle force militaire et une grande stabilité politique avaient certainement du mal à comprendre le désastre que le prophète annonçait. Celui-ci fait allusion à la captivité et à l'exil qui allait s'abattre sur Israël, même si Amos ne mentionne pas le nom de l'Assyrie. Moins de 40 ans s'écouleront encore avant la prise définitive de Samarie, la capitale d'Israël, et l'exil des Israélites en Assyrie. 723 avant Jésus-Christ. Chapitre 9, versets 11 à 15, on a le rétablissement de la bénédiction. Après ces allusions à la captivité, les dernières paroles de Dieu que rapporte Amos sont des paroles d'espérance et de consolation. La nation qui doit être détruite parce que n'étant pas d'aplomb, sera relevé. Les habitants qui vont tomber, comme des fruits plus que mûrs, habiteront de nouveau dans un pays fertile. Deuxième idée qu'on regarde, c'est les leçons morales du livre d'Amos. Une des leçons morales, c'est très certainement celle d'éviter l'idolâtrie et l'amalgame du vrai culte avec un culte falsifié. Ça, on pourrait beaucoup développer de nos jours l'application de tout cela. L'idolâtrie et l'amalgame du vrai culte, selon la Bible, avec un culte falsifié. On pourrait, parce qu'aujourd'hui, on est rendu là, si on compare la situation de l'époque avec celle d'aujourd'hui, il y a des ressemblances très, très fortes. L'idolâtrie est un mal permanent. Certains justifient l'emploi d'images comme support pour leur adoration de Dieu. Qu'il s'agisse de peintures, de dessins, de vitraux, de sculptures ou d'objets divers, mais ces choses peuvent facilement devenir des idoles. En outre, comme au temps d'Amos, le culte du vrai Dieu risque de devenir une formalité, un ensemble de rites extérieurs qui se transforme petit à petit en routine. Dieu mérite un culte qui engage la réflexion, le cœur tout entier et l'exercice de la volonté. Il réclame un culte qui soit à la fois sincère et conforme à la vérité révélée. Il ne veut pas seulement être adoré, mais surtout être adoré comme il l'entend, c'est-à-dire en esprit et en vérité, comme on le voit dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4, verset 24. Deuxième leçon morale du livre d'Amos, c'est celle de promouvoir la justice sociale. Les riches achetaient la justice. Les puissants opprimaient le pauvre et le malheureux. Les Israélites étaient coupables de négliger ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il est de notre devoir de chrétiens, pendant que nous en avons l'occasion, de pratiquer le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Les églises qui négligent leur responsabilité sociale et insistent uniquement sur une notion individualiste du salut montrent qu'elles n'ont pas bien compris le message d'Amos ni celui de Christ. L'Éternel est le protecteur du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Il défend l'opprimé. Les chrétiens sont appelés à être compatissants, comme lui, et à témoigner un amour pratique. La femme vertueuse tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Proverbe chapitre 31, verset 20. Dieu exige le respect de la justice sociale de la part des siens. Lui-même s'insurge contre les abus de la richesse, du pouvoir et des privilèges. Le livre d'Amos se dresse comme un témoin éloquent contre ceux qui asservissent les besoins et la dignité de l'être humain à la poursuite de la richesse et du plaisir. Troisième leçon morale du livre, c'est celle de fuir le matérialisme. Que le sage prie ainsi, et on voit ça dans chapitre 30 du livre des Proverbes, versets 8 et 9. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel? » Il est très facile d'oublier le Seigneur dans les temps de prospérité et de devenir autosuffisant, de s'attribuer le mérite de la réussite au lieu d'être reconnaissant au Seigneur pour sa providence. Nous sommes des serviteurs chargés d'administrer les biens de leur maître. Quatrième leçon morale, l'opposition à la parole. Bien qu'Amos fût un fidèle messager de l'Éternel, il connut l'opposition de ce qu'on pourrait appeler l'Église et l'État. Amatia représente l'hostilité religieuse et Jéroboam l'hostilité civile. La crucifixion du Seigneur Jésus résulta de l'opposition conjointe des autorités religieuses du judaïsme et des autorités civiles de de Rome. Quand Pierre et Jean furent traduits devant le Sanhédrin, le Conseil suprême des Juifs, ils reçurent l'ordre de ne plus parler et d'enseigner au nom de Jésus. Si Dieu demande à son peuple de se soumettre aux autorités supérieures, Romains 13, verset 1, il fixe des limites à cette soumission. Celle-ci ne se justifie plus dès qu'elle compromet un principe chrétien ou transgresse la parole de Dieu. C'est pourquoi les apôtres répliquèrent au Sanhédrin « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » L'Église de Jésus-Christ a souvent été persécutée par les partisans des fausses religions et d'un pseudo-christianisme. Ses ennemis n'ont jamais hésité à accuser faussement les vrais enfants de Dieu devant les autorités civiles, comme des fauteurs de troubles qui fomentent des soulèvements. Autre leçon morale du livre, c'est que les nations sont soumises au gouvernement souverain de Dieu. Toutes les nations sont sous le gouvernement de Dieu. Il leur fixe des règles. Malgré son étonnante patience, il châtiera les nations pour leur attitude inhumaine et corrompue. Si la cruauté le met en colère, c'est parce que son cœur est axé sur la bonté. Si l'opposition déclenche son courroux, c'est parce que son but pour l'homme est qu'il vive en paix. Si les souffrances de l'homme infligent à ses semblables provoquent son jugement, c'est parce que l'un des grands souhaits de son cœur est que l'humanité jouisse du bien-être et du bonheur. Sa façon de gouverner vise toujours la création des conditions les meilleures et les plus nobles. Dieu s'insurge contre tout ce qui abîme, lutte, cruauté, guerre, oppression, parce que ces choses vont à l'encontre du but de son gouvernement. Dieu juge les nations et les punit. Il se montre cependant beaucoup plus sévère pour ceux qui savent devoir mieux faire. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ce principe s'applique autant aux nations qu'aux individus. Compte tenu de tous ces privilèges, Israël sera jugé plus sévèrement. Comme la plupart des autres prophètes, Amos dénonce les péchés du peuple, avertit du jugement à venir, souligne la justice de Dieu et révèle de la façon la plus remarquable l'extraordinaire miséricorde de Dieu dans une délivrance future. 5 applications. Première, prions le Seigneur de nous sonder pour nous montrer de toute façon d'adorer dans nos cultes qui n'est pas strictement biblique et selon la vérité. Portons une attention particulière au formalisme dans nos cultes, tant privés que publics. Deuxième application, examinons notre engagement comme individu et comme Église dans la charité envers les pauvres et les malheureux. Implorons Dieu de nous montrer nos manquements et de corriger nos manques d'amour dans ce domaine. Troisième application, la prospérité matérielle comporte de multiples dangers. L'attribution de cette richesse à nos mérites et à nos talents, plutôt qu'à la providence de Dieu, l'ingratitude, l'éloignement du Seigneur, l'égoïsme et la convoitise. Quatrième application, soyons conscients que c'est une chose très grave de ne pas obéir à la parole de Dieu. Prions le Seigneur de briser notre tendance à la rébellion. Cinquième application, Dieu est un juge sévère. Il juge tant les individus que les nations. La repentance est de rigueur si nous voulons éviter le jugement. Que notre grand, souverain et glorieux Seigneur soit exalté, béni et adoré à tout jamais. Amen.
Amen.